Le livre de Daniel, numéro 189. La tapisserie prophétique de la bataille de Pagnum, un prélude à la loi du dimanche.
La bataille de Pagnum était essentiellement une guerre spirituelle. Juste avant la loi du dimanche, le 8e président, qui est le 6e depuis Ronald Reagan au temps de la fin en 1989, qui est aussi le dernier président républicain et qui est le président le plus riche et qui soulève également tout le domaine du mondialisme, conduira le protestantisme apostat à vaincre la religion grecque de pas, qui est le wokisme du mondialisme. Dans les versets 11 et 12, l'histoire qui commence avec la guerre d'Ukraine en 2014 s'achève à la loi du dimanche au verset 16. Le verset 15 est la bataille de Pagnum, et la bataille de Pagnum conduit à la bataille d'Actium, qui est la troisième guerre mondiale.
À l'heure du grand tremblement de terre, qui est la loi du dimanche du verset 16, l'islam du troisième malheur attaque les États-Unis, irritant les nations et provoquant la ruine nationale. C'est la bataille de Pagnum qui précède cette attaque.
Au moment de la loi du dimanche, l'union tripartite du dragon, de la bête et du faux prophète est établie.
Par le décret imposant l'institution de la papauté, en violation de la loi de Dieu, notre nation se séparera entièrement de la justice. Lorsque le protestantisme tendra la main par-dessus le gouffre pour saisir la main de la puissance romaine, lorsqu'il se penchera au-dessus de l'abîme pour s'unir au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays répudiera tout principe de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain et pourvoira à la propagation des faussetés et des séductions papales, alors nous pourrons savoir que le temps est venu pour l'action prodigieuse de Satan et que la fin est proche. Testimonie, volume 5, 451.
À ce moment-là, la blessure mortelle de la papauté est complètement guérie et elle règne en souveraine jusqu'à ce qu'elle arrive finalement à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide. C'est lorsque Rome conquiert le troisième obstacle qu'elle règne, comme le représente Rome païenne dans Daniel, chapitre 8, verset 9, et au chapitre 11, verset 16 à 19. Lorsque la Rome papale arracha les trois cornes, elle régna en souveraine pendant 1260 ans, tout comme la Rome païenne régna en souveraine pendant 360 ans après avoir conquis l'Égypte, le troisième obstacle, à la bataille d'Actium en 31 avec Jésus-Christ.
En grammaire, le suffixe « ium » est ajouté à la fin d'un mot pour former un nom qui désigne un lieu, un état ou un ensemble de quelque chose. Il est couramment utilisé dans la formation de termes techniques et scientifiques, en particulier en chimie et en biologie. Par exemple, « stadium » désigne un lieu destiné aux compétitions sportives ou à d'autres événements. « Aquarium » désigne un lieu où l'on garde des organismes aquatiques ou des plantes pour les exposer et « gymnasium » désigne un lieu destiné à l'exercice physique ou à l'entraînement. En terminologie scientifique, « ium » est souvent utilisé pour indiquer un élément ou un composé chimique, notamment lorsque l'élément ou le composé a été isolé ou découvert. Par exemple, « sodium » désigne un élément chimique de symbole Na. « Calcium » désigne un élément chimique de symbole Ca.
Le début de la domination suprême de la Rome païenne s'est accompli lors de la bataille d'Actium, et la bataille de Pagnum a ouvert la voie à la guerre que représente Actium, car, ligne sur ligne, Actium représente la loi du dimanche lorsque la papauté règne de nouveau souverainement sur le monde. Actium était une bataille navale et Pagnum était une bataille terrestre. Ainsi, le lien entre les deux batailles représente une bataille mondiale englobant la terre et la mer. Actium, la plus célèbre bataille navale de l'histoire ancienne, représente aussi une guerre mondiale, car les eaux que tu as vues, où est assise la prostituée, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Pagnum représente une guerre spirituelle combinée à une guerre politique lors de l'imminente loi du dimanche.
Le mot « pain », en tant que nom, a plusieurs sens selon le contexte, mais dans la mythologie grecque, Pan est le dieu des bergers, des troupeaux, de la musique champêtre et de la nature sauvage. Il est souvent représenté comme un être mi-homme, mi-bouc, et il est connu pour son amour de la musique et de la nature.
Comme l'acte culminant du grand drame de la tromperie, Satan lui-même se fera passer pour le Christ. L'Église professe depuis longtemps attendre l'avènement du Sauveur comme l'accomplissement de ses espérances. À présent, le grand séducteur fera croire que le Christ est venu. Dans différentes parties de la terre, Satan se manifestera parmi les hommes comme un être majestueux, d'un éclat éblouissant, ressemblant à la description du Fils de Dieu donnée par Jean dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, 13, Quintégane. La grande controverse, 1680.
Pence est le Dieu berger, et il personnifiera le vrai berger. L'usurpation de l'identité du Christ par Satan commence au moment de la loi dominicale,
car, au décret, nous pouvons alors savoir que le temps est venu pour l'œuvre merveilleuse de Satan et que la fin est proche. Le mot pain peut aussi désigner un récipient de cuisson peu profond à large rebord, utilisé pour frire, cuire au four ou préparer des aliments. La guerre finale est centrée sur Jérusalem spirituelle, la montagne sainte qui est élevée comme un étendard, et la montagne vers laquelle l'autre troupeau de Dieu, encore à Babylone, s'enfuit. À ce moment-là, toutes les nations se dresseront contre Jérusalem spirituelle, qui est identifiée comme une coupe, Pan.
Oracle de la parole de l'Éternel sur Israël, dit l'Éternel, qui étend les cieux, qui fonde la terre et qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de vertige pour tous les peuples d'alentour, lorsqu'ils l'assiégeront, contre Juda et contre Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, alors même que toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12, 1, 3.
Jérusalem est aussi le chaudron, car c'est la casserole où se déroule le drame. Un chaudron est une casserole.
Alors il me dit, « Fils de l'homme, ce sont les hommes qui trament le mal et qui donnent dans cette ville de mauvais conseils, qui disent, « Ce n'est pas pour bientôt, bâtissons des maisons, cette ville est le chaudron et nous sommes la chair. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, ô fils de l'homme. » Et l'Esprit du Seigneur vint sur moi et me dit, « Parle, ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi que vous avez dit, maison d'Israël, car je connais les choses qui montent dans votre esprit, chacune d'elles. Vous avez multiplié les victimes dans cette ville et vous en avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Vos morts, que vous avez déposés au milieu d'elles, eux, ils sont la chair, et cette ville est le chaudron. Mais moi, je vous ferai sortir du milieu d'elle. Vous avez redouté l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur Dieu. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains d'étrangers, et j'exécuterai des jugements au milieu de vous. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai à la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur. Cette ville ne sera pas pour vous le chaudron, et vous ne serez pas la chair au milieu d'elle, mais je vous jugerai à la frontière d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, car vous n'avez pas marché selon mes statuts, vous n'avez pas observé mes ordonnances, mais vous avez agi selon les coutumes des païens qui vous entourent. Ézéchiel 11, 2, 12.
En anglais, « pen » en tant que préfixe signifie « universel », tout ou à travers. Par exemple, « panorama » désigne une vue large ou d'ensemble d'un lieu. « Panthéisme » désigne la croyance que l'univers est divin. Et « panaméricain » se rapporte à quelque chose qui concerne tous les pays des Amériques. Ainsi, « pen » désigne une guerre mondiale.
Satan détourne les esprits avec des questions sans importance, afin qu'ils ne perçoivent pas avec une vision claire et nette des sujets d'une importance capitale. L'ennemi projette de prendre le monde au piège. Le prétendu monde chrétien sera le théâtre de grandes actions décisives. Des hommes en autorité édicteront des lois visant à contrôler la conscience, sur le modèle de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Chaque nation sera impliquée. Message choisi, livre 3, 392.
Le mot « act » en tant que nom signifie une décision écrite et formelle ou une loi adoptée par un organe législatif.
Quand notre nation abjurera à ce point les principes de son gouvernement qu'elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme, par cet acte, s'allierait au papisme. Témoignage, volume 5, 712.
Le soi-disant monde chrétien est un théâtre de grandes actions, ou actes, et chaque nation, pain, sera impliquée. Le mot « acte » peut aussi désigner une division ou une partie d'une pièce, d'un film ou d'un autre spectacle, généralement caractérisé par un ensemble particulier d'événements ou d'actions. Le mot « acte » en tant que verbe signifie s'exécuter une action d'une spécifique ou se comporter d'une certaine manière. Il peut aussi renvoyer au fait de faire semblant ou de jouer un rôle, comme lorsqu'on joue dans une pièce ou un film.
Le monde est un théâtre. Les acteurs, ses habitants, se préparent à jouer leur rôle dans le dernier grand drame. Dieu est perdu de vue. Au sein des grandes masses de l'humanité, il n'y a pas d'unité, sinon lorsque les hommes se liguent pour accomplir leurs desseins égoïstes. Dieu observe. Ses desseins à l'égard de ses sujets rebelles s'accompliront. Le monde n'a pas été livré entre les mains des hommes, bien que Dieu permette aux éléments de confusion et de désordre de dominer pour un temps. Une puissance d'en bas agit pour amener les dernières grandes scènes du drame. Satan se présentant comme le Christ et opérant avec toute la séduction de l'injustice chez ceux qui se lient ensemble au sein de sociétés secrètes. Ceux qui cèdent à la passion de la Confédération mettent à exécution les plans de l'ennemi. L'effet suivra la cause. La transgression a presque atteint sa limite. La confusion règne dans le monde et une grande terreur va bientôt s'abattre sur les êtres humains. La fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité devrions nous préparer à ce qui ne tardera pas à fondre sur le monde comme une surprise foudroyante. Rivi and Herald, 10 septembre 1903.
Panium et Actium représente la Troisième Guerre mondiale. Dans cette guerre, il y aura des manifestations surnaturelles, telles que les représente Pan, le dieu bouc grec. La guerre sera associée à l'imposition de la loi du dimanche en tant qu'acte, et la guerre est identifiée comme étant les dernières scènes du grand drame, car elle n'est pas seulement l'un acte juridique imposant la législation dominicale, elle est aussi le point culminant du drame de l'Évangile dans les dernières heures du temps de grâce de l'humanité. Avant la bataille, où prophétiquement Panium et Actium se rejoignent, au verset 16 du chapitre 11 de Daniel, la dernière armée de Dieu aura déjà été suscitée, et sa bannière, qui est un étendard, sera alors élevée. Le sens premier d'étendard est la bannière d'une armée. Acte et Pan sont Actium et Panium, et le merveilleux linguiste a contrôlé la géographie, les noms et l'histoire des deux batailles, car c'est l'histoire immédiatement avant la loi du dimanche imminente. La bataille de Panium eut lieu en 200 avant J.J.C., et le verset 16 identifie la conquête de Jérusalem par Rome en 63 avant J.J.C. Dans l'histoire des derniers jours, représentée par la période allant de 200 avant J.J.C. à 65 avant J.J.C., la formation de l'image de la bête aux États-Unis sera accomplie, comme le représente l'histoire de 105 avant J.J.C. à 158 avant J.J.C. Avant la période où se dérouleront les mouvements finaux visant à ériger une image de la bête aux États-Unis, il y aura un événement représenté par la révolte de Modin en 167 avant J.J.C. Cette révolte est typifiée par la révolte contre la religion imposée par la Grèce et elle conduira à un jalon représenté par la reconsécration du temple en 164 avant J.J.C. L'an 164 avant J.J.C. est commémoré par le judaïsme en raison du miracle par lequel une quantité d'huile sainte suffisante pour un jour dura 8 jours. Ainsi, 164 avant J.J.C., qui précède 161 avant J.J.C., identifie un miracle satanique qui fut accompli en faveur du peuple apostat de Dieu. Le miracle est représenté comme un jour produisant 8 jours, et l'huile de ce premier jour fut ce qui pourvut à l'ensemble des 8 jours. Le miracle fut opéré sur la partie unique qui était de même que la 7e, et ce repère est placé au même de l'histoire où s'accomplit l'énigme du 8e qui est d'entre les 7. Sur la corne républicaine apostate aussi bien que sur la corne protestante apostate. La manifestation de miracles sataniques avant l'imminente loi du dimanche est associée au dieu grec Pan. Lorsque la bataille de Panium sera menée et remportée par Trump et le protestantisme apostat, la boîte de Pandore aura été ouverte, et il n'y aura aucun moyen de résoudre les problèmes qui seront alors déchaînés sur l'humanité. Car une grande terreur va bientôt s'abattre sur les êtres humains. La fin est très proche. Nous, qui connaissons la vérité, devrions nous préparer à ce qui est sur le point de fondre sur le monde comme une surprise accablante. Les 144 000 sont ceux qui ont été scellés par la puissance sanctifiante de la parole de Dieu, qui a été accordée par le dévoilement de la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation comprend plusieurs lignes spécifiques de vérité, et elle dispense un enseignement sanctifié sur qui est Jésus. En tant que parole de Dieu, il est le merveilleux linguiste qui a gouverné tout langage humain, puisque c'est par sa puissance qu'il a fait naître les diverses langues lorsqu'il fit pleuvoir la confusion sur la tour de Babel. Il est le merveilleux numérateur qui a caché des secrets dans les nombres présentés dans sa parole, ainsi qu'au sein de toute sa création. Il est le maître de l'histoire, car l'histoire est son histoire. Il a créé la terre et il a gouverné la configuration géographique de la planète après le déluge, et par conséquent, les diverses géographies prophétiques qui constituent les vérités trouvées dans sa parole. Les 144 000 représentent, entre autres choses, ceux qui manifestent la foi qu'il a créé toutes choses.
Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1:1-3.
L'histoire de la boîte de Pandore est un mythe de l'ancienne mythologie grecque. Elle est principalement rapportée dans les Travaux et les Jours du poète grec Hésiode, ainsi que dans diverses autres sources classiques. Il s'agit manifestement d'une paraphrase de l'expérience d'Ève dans le Jardin d'Éden. Le nom Pandore vient de l'ancienne mythologie grecque. Il est dérivé des mots grecs « pan » signifiant « tout » et « dora » signifiant « don ». Pandore signifie « doté de tous les dons ». Ève est le symbole de l'Église et tous les dons se trouvent au sein de l'Église de Dieu. Dans la mythologie grecque, Pandore fut la première femme mortelle créée par les dieux. Selon le mythe, elle fut façonnée par Héphaïstos sur l'ordre de Zeus, le roi des dieux, dans le cadre d'un plan visant à punir l'humanité. Chacun des dieux offrit des dons à Pandore, notamment la beauté, la grâce, l'intelligence et le charme. Zeus lui donna une jarre, dans des récits ultérieurs, elle devint une boîte, et lui ordonna de ne jamais l'ouvrir sous aucun prétexte. Il fut dit à Ève qu'elle pouvait manger de tous les arbres, sauf de l'arbre au milieu du Sulis. Pandore, vaincue par la curiosité, finit par céder à la tentation et ouvrit la jarre. Ce faisant, tous les maux, les douleurs et les maladies qui avaient jusque-là été retenus à l'intérieur furent libérés dans le monde, répandant la souffrance et la misère parmi l'humanité. Cependant, une chose demeura dans la jarre, l'espérance. Dans certaines versions du mythe, Pandore referma rapidement la jarre, empêchant l'espérance de s'échapper, tandis que, dans d'autres, l'espérance sortit également, offrant à l'humanité une lueur d'optimisme et de résilience face à l'adversité. La bataille de Panium se joint à la bataille d'Actium dans la loi dominicale bientôt à venir. Et cette loi dominicale bientôt à venir fut typifiée par l'épreuve dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin, l'épreuve concernait simplement Adam et Ève. Mais, dans les derniers jours, l'épreuve devait se présenter à l'ensemble de l'humanité à travers le monde entier. La première épreuve, celle de croire ou de ne pas croire la parole de Dieu dans le jardin, typifie la dernière épreuve de la loi dominicale. Ève échoua à cette première épreuve et ouvrit sur l'humanité les vannes du malheur, comme le représente le mythe de Pandore. Lorsque la bataille de Panium se joindra à la bataille d'Actium, l'épreuve représentée dans le jardin d'Éden sera ouverte à toute l'humanité. L'espérance alors offerte au monde est l'étendard élevé pour que le monde entier, Panorama, le voit.
Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, regardez. Quand il élève une bannière sur les montagnes, et quand il sonne de la trompette, écoutez. Ésaïe 18, 3.
Nous poursuivrons cette étude dans l'article suivant.
Le monde est un théâtre. Les acteurs, ses habitants, se préparent à jouer leur rôle dans le dernier grand drame. Parmi les masses de l'humanité, il n'y a pas d'unité, sauf quand les hommes se liguent pour accomplir leurs desseins égoïstes. Dieu observe. Ses desseins à l'égard de ses sujets rebelles s'accompliront. Le monde n'a pas été livré entre les mains des hommes, quoique Dieu permette aux éléments de confusion et de désordre d'exercer leur emprise pour un temps. Une puissance d'en bas agit pour amener les dernières grandes scènes du drame, Satan se faisant passer pour le Christ et opérant avec toute la séduction de l'iniquité chez ceux qui s'unissent en société secrète. Ceux qui cèdent à la passion de la Confédération mettent à exécution les plans de l'ennemi. La cause sera suivie de l'effet. Jamais ce message ne s'est appliqué avec plus de force qu'aujourd'hui. De plus en plus, le monde fait fi des droits de Dieu. Les hommes se sont enhardis dans la transgression. La méchanceté des habitants de la terre a presque rempli la mesure de leur iniquité. Cette terre a presque atteint le point où Dieu permettra au destructeur de faire sa volonté à son égard. La substitution des lois des hommes à la loi de Dieu, l'exaltation, par une autorité purement humaine, du dimanche à la place du sabbat biblique, constitue le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution deviendra universelle, Dieu se révélera. Il se lèvera dans sa majesté pour ébranler terriblement la terre. Il sortira de sa demeure pour punir les habitants du monde de leur iniquité, et la terre mettra au jour son sang et ne couvrira plus ses victimes. Nous nous tenons au seuil de la crise des âges. Les jugements de Dieu se succéderont rapidement. Le feu, les inondations et les tremblements de terre, avec la guerre et l'effusion de sang. Nous ne devons pas être surpris à cette heure par des événements à la fois grands et décisifs, car l'ange de miséricorde ne peut rester beaucoup plus longtemps pour protéger les impénitents. La crise nous gagne peu à peu. Le soleil brille dans les cieux, poursuivant sa course habituelle, et les cieux proclament encore la gloire de Dieu. Les hommes mangent et boivent encore, plantent et bâtissent, se marient et donnent en mariage. Les commerçants achètent et vendent encore. Les hommes se bousculent les uns les autres, se disputant la première place. Les amateurs de plaisir se pressent encore au théâtre, aux courses de chevaux et dans les tripots de jeu. L'excitation est à son comble. Pourtant, l'heure de l'approbation touche rapidement à sa fin, et chaque cas est sur le point d'être décidé pour l'éternité. Satan voit que son temps est court. Il a mis en œuvre tous ses moyens afin que les hommes soient trompés, leurrés, occupés et fascinés, jusqu'à ce que le jour de l'approbation prenne fin et que la porte de la miséricorde se ferme à jamais. La transgression a presque atteint sa limite. La confusion remplit le monde et une grande terreur va bientôt s'abattre sur les êtres humains. La fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité devrions nous préparer à ce qui va bientôt déferler sur le monde comme une surprise foudroyante. En ce temps d'iniquité régnante, nous pouvons savoir que la dernière grande crise est imminente. Lorsque le mépris de la loi de Dieu est presque universel, lorsque son peuple est opprimé et affligé par ses semblables, le Seigneur interviendra. Nous nous tenons sur le seuil de grands et solennels événements. Les prophéties s'accomplissent. Une histoire étrange et riche en événements est consignée dans les livres du ciel. Tout dans notre monde est en agitation. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Les nations sont en colère et le temps des morts est venu, afin qu'ils soient jugés. Les événements évoluent pour amener le jour de Dieu qui s'avance à grands pas. Il ne reste, pour ainsi dire, qu'un moment. Mais tandis que déjà nation s'élève contre nation et royaume contre royaume, il n'y a pas encore de conflit général. Les quatre vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Alors les puissances de la terre rassembleront leurs forces pour la dernière grande bataille. Service chrétien, 50, 5 AA.